La France bouge continue, Raphaël, avec la solution du jour de Dora Nana.
Oui, on va redonner de la dignité et aussi le sourire hein, à nos aînés. Ça passe par des vêtements qui sont beaux, qui sont aussi adaptés pour eux. C'est la solution du jour, Dora, et ça s'appelle Cosiso.
Et c'est une marque de vêtements, Cosiso, qui propose des habits, dont on le disait, spécifiques pour les personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie, qu'elles soient chez elles, bien sûr, à l'hôpital ou dans une maison de retraite, avec un slogan « Habiller ». Accompagner, soulager et faire que dépendance rime aussi avec élégance. Alors leur mission, donner du confort et du réconfort à nos aînés. Bonjour Marido Marco Torchino.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice donc, de cette marque de vêtements, Cosiso. Alors comment vous est venue cette idée? Parce que c'est vrai quand on se balade dans les hôpitaux, on voit souvent des personnes âgées, bon, vêties un peu comme un peu n'importe comment, on peut le dire. Et vous, ça vous est venu comment de créer une marque de vêtements pour les personnes âgées?
Alors en fait, le projet initial a été lancé par ma mère en 2012, dans le cadre d'un hôpital gériatrique de Paris, à l'hôpital Bretonneau, où elle a commencé à habiller les patients de l'hôpital. Et elle a créé comme ça 500 vêtements qu'elle distribuait gratuitement. Et moi, l'électrochoc est venu en 2015, quand elle a bénéficié d'une grève de cœur. Et où j'ai été confrontée, où nous avons été confrontés à sa dépendance. Elle a dû réapprendre tous les gestes du quotidien et de fait, nous, on a été placés en statut d'aidant. Et j'ai dû effectivement l'aider à l'habiller. Et en fait, je me suis rendue compte à ce moment-là du travail qu'elle menait depuis toutes ces années auprès des personnes âgées. Voilà.
Alors aujourd'hui, vous proposez justement des trousseaux adaptés. Oui. Donc c'est 10 vêtements. Il y a quoi dedans? On peut voir là d'ailleurs.
En fait, ils sont avec nous si vous nous suivez sur europe1.fr.
En fait, on propose une solution clé en main pour habiller nos aînés de façon, je dirais, sans douleur, pour qu'ils puissent rester dignes tous les jours. Et donc, dans les trousseaux, vous avez 10 vêtements qui permettent de les habiller au quotidien.
On voit par exemple la jupe.
Alors ça, c'est un produit inventé par maman qui permet, on dit qu'il est modulable dans le sens où le bas vient se clipser sur le haut. Et quand il est souillé ou quand la personne, on doit changer juste sa protection, vous n'avez qu'à enlever la jupe et venir en clipser une autre éventuellement ou remettre celle-ci.
Alors, Raphaël l'a essayé, c'est vrai qu'en effet, c'est très pratique parce que ça se clipse assez facilement.
Comme elle se clipse sur le haut, ça évite que le haut se détache, que la personne soit débraillée. Donc voilà. C'est la modularité du vêtement. Ensuite, tous les vêtements sont faits pour qu'on puisse les enfiler sans que le patient ait trop de mouvements et d'amplitude à faire. Ce qui, finalement, permet également de faciliter le travail des soignants.
C'est important, voilà. Parce que le travail des soignants, il y a le réconfort aussi et le confort du soignant.
C'est vrai que
il y a des pressions partout, en fait.
Oui,
c'est ça qui simplifie vraiment les choses.
Alors, on les a fait tout à derrière. Ça, c'est vraiment les modèles pour personnes âgées dépendantes, donc qui ont besoin d'une tierce personne. Et c'est vrai que le moment de la toilette est toujours un moment un peu tendu pour les patients et donc, de fait, pour les soignants, puisqu'ils sont confrontés à des patients qui sont soit dans la douleur, dans la tension. Donc le fait de pouvoir apaiser aussi ce moment, c'est apaiser aussi le travail du soignant et de lui permettre finalement d'habiller les patients. Et finalement, je dirais que ça a une action un peu transversale sur le patient, puisqu'on va déjà lui permettre d'avoir une certaine dignité, respecter sa dignité. On va permettre l'habiller sans douleur et le patient, l'aidant, son travail est facilité et la famille, elle est contente.
Voilà.
Catherine Testa, notre coach.
Alors, c'est un cercle vertueux pour tout le monde. C'est joli, en plus.
Oui.
Comment vous communiquez auprès des EHPAD? Est-ce qu'on peut acheter en ligne aussi, aujourd'hui?
Alors, tout à fait. On vient tout juste de créer nos premiers trousseaux. Les premiers trousseaux commencent à être distribués dans un groupe d'EHPAD qui est venu nous chercher via l'intermédiaire d'une personne qui croit en ce projet, tant pour ses patients que pour ses soignants. Et sinon, évidemment, il y aura un site. Aujourd'hui, il y a un site institutionnel, mais demain il y aura une boutique en ligne sur laquelle effectivement on pourra acheter les trousseaux.
Cosiso, on ne l'a pas précisé parce qu'il y a des gens qui vont vous chercher, ça s'écrit C-O-S-I et plus loin sous comme la couture.
Alors,
S-E-W.
Oui, C-O-S-Y.
Oui, C-O-S-Y,
ouais,
oui.
S-E-W.com.
Le site internet. Le site, mais sous, les gens, voilà,
exactement.
Parce que c'est de l'anglais, donc je préfère le préciser.
Et alors, du coup, c'est du Made in France,
oui,
vos vêtements.
Oui,
on le
tout
précise,
à fait.
Hein, parce que c'est l'émission qui veut ça et qui porte ce genre de projet. Et vous, à quel prix? Combien ça coûte?
Alors, aujourd'hui, le trousseau est vendu à 600 euros pour 10 vêtements, ce qui fait en moyenne un produit à 60 euros. Demain, normalement, on devrait avoir des solutions de paiement, c'est-à-dire offrir la possibilité de payer en plusieurs fois le trousseau pour effectivement alléger. Voilà, aujourd'hui, il est vendu à 600 euros pour 10 vêtements.
Et quels sont vos retours, en fait, les gens qui les portent? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Alors, les gens qui les portent, on a pas mal de retours où, effectivement, on voit tout de suite dans leur regard. On a fait plusieurs défilés et c'est vrai que c'est assez... on a l'impression de ramener un petit supplément de vie. Parfois, on voit des yeux qui pétillent et c'est très émouvant. Donc, le retour, il est plutôt favorable de la part des patients puisqu'ils se sentent de nouveau beaux. Ils participent de nouveau à certaines activités alors que, parfois, ils ne souhaitaient plus descendre. Etc. Donc on rompt un petit peu l'isolement dans lequel ils peuvent être amenés à être confrontés. Et pour ce qui est des familles, elles sont toutes ravies et en ce qui concerne les soignants également.
On parle des EHPAD, on peut aussi avoir ce type de cosy pack, c'est comme ça que vous les appelez, à la maison, à domicile, pour les personnes qui sont chez elles.
Tout à fait, les problématiques que rencontrent les soignants dans le cadre d'un institut sont les mêmes à domicile. Je veux dire, la dépendance, elle est la même chose. Alors c'est vrai qu'après, nous avons également des options médicalisées, notamment pour les personnes qui sont perfusées ou qui ont des poches urinaires, ce qui est peut-être un peu plus le cas en institut ou à l'hôpital, mais néanmoins, pour ce qui est des poches urinaires, on rencontre également à domicile. Donc les problématiques sont les mêmes. Donc ce sont des produits qui peuvent être adaptés également à la vie à domicile.
On peut vous aider comment aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, déjà, merci de nous recevoir parce que c'est très gentil et c'est comme ça que vous pouvez m'aider en faisant en sorte que demain, on porte un regard aussi différent sur les personnes âgées et en faisant connaître cette solution qui, je pense, peut correspondre à un peu tout le monde en fin de compte puisqu'on peut tous être confrontés à la dépendance. Et donc, nous aider, c'est relayer ceci, c'est relayer notre idée, notre solution et voilà.
Et ça s'appelle Cosy Sous, COSY, plus loin SEW.com si vous voulez évidemment pouvoir découvrir les collections. On le précise, il y en a vraiment pour les hommes et les femmes.
Tout à fait, il y a hommes, femmes. Aujourd'hui, vous avez la collection pour les personnes âgées dépendantes, mais il y a aussi une collection pour personnes âgées en perte d'autonomie, où on n'est plus tout à fait sur les mêmes problématiques, mais qui devrait arriver également. Voilà.
Merci d'être venu nous présenter cette solution aujourd'hui dans
France Bouge. Merci à vous toutes.
Il est 12h58.
Europe 1. Et on reste ensemble, on va partir à la montagne dans quelques minutes. Le chef de l'État s'y trouve pour constater les changements climatiques qui affectent notamment la mer de glace. Et vous allez voir que les sports d'hiver sont aussi en train de changer. Ce sera notre dossier du jour. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans La France Bouge sur Europe 1. Ici, vous le savez, on essaie de vous montrer qu'il y a aussi des choses qui marchent, des gens qui créent, qui s'adaptent au changement et qui inventent finalement la société de demain. Cet hiver, vous êtes encore évidemment très nombreux à être partis à la montagne pour ces vacances de février. Or, vous le savez, le chef de l'État est lui aussi dans les Alpes pour constater les effets du changement climatique sur la mer de glace. Ce qui va nous obliger d'ici quelques années à changer notre manière de nous rendre au sport d'hiver. Changement qui est très perceptible et nous allons le constater ensemble. Bonjour Cyril Colmédage.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur du SNOOC. Alors SNOOC, ça s'écrit S-N-O-O-C, je le précise. Vous avez grandi assez loin de la montagne. Vous êtes né à Orléans. Mais en 2002, vous avez fait le choix de vous installer du côté d'Annecy.
Exact.
Parce que vous étiez passionné par la montagne.
Ouais, la montagne, c'est un endroit qui est féerique, qui est magique. Et du coup, se rapprocher de cet endroit-là, c'était vraiment une chance.
De la montagne et de la glisse, que ce soit sur l'eau ou sur la neige. Vous avez du coup passé des brevets d'accompagnateur en montagne. Et alors, en 2007, vous vous êtes dit, c'est quand même dommage de partir en randonnée, faire de la raquette comme ça, et de ne pas avoir cette fameuse sensation de glisse. Du coup, vous commencez à chercher comment on peut bricoler quelque chose qui glisse aussi.
C'est ça. L'idée, c'est tout le monde ne sait pas forcément faire de ski. À peu près tout le monde sait faire de la luge. Maintenant, la luge, ce n'est pas forcément évident à contrôler. Donc, comment on pourrait glisser et aller se promener en montagne en sécurité?
Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des morceaux de ski, vous prenez des morceaux de luge, vous essayez de faire quelque chose qui ressemble à un engin de glisse?
De toute façon, quand on crée une innovation, c'est forcément du hasard, déjà au départ. Et je tombe par hasard sur un championnat de paré, qui est une glisse ancestrale, en fait, qui existe un peu partout dans le monde, mais le Paris, c'est en particulier du côté de Manigot. Et je me rends compte que des personnes qui ont 5 ans, 70 ans, non-skieurs, skieurs, peuvent pratiquer ensemble une activité sur un slalom directement. Donc je me dis, voilà, il y a quelque chose de génial. Il faut profiter de cette activité et la développer et la rendre encore plus accessible.
Donc vous le modernisez, c'est ça? Et ça donne une sorte de luge monoski?
C'est ça, on est au ras du sol, comme en luge, c'est ce qui la rapproche de la luge. Par contre, on a un ski, et ce qui permet en fait d'avoir quelque chose qui est complètement maîtrisable, et on peut avancer en sécurité, maîtriser ses trajectoires, maîtriser l'arrêt. Donc on est vraiment entre la luge et le ski, et ça fait le lien.
Ouais, c'est hybride, finalement. C'est ça. Vous l'avez fabriqué comment C'est un monoski avec un siège, avec, pour ceux qui ne voient pas, parce que nous, il est avec nous en studio, mais il faut le décrire, il y a effectivement le monoski, et puis dessus... il y a un petit siège avec la possibilité de monter, descendre en fonction de la taille de la personne qui s'assied dessus.
Alors, il y a une seule taille. L'avantage, comme en luge. En fait, comme on est au ras du sol, on est les jambes allongées vers l'avant. Et du coup, on est assis à 20 cm. Et des enfants de 9 ans, comme des personnes de 70 ans, peuvent s'asseoir à 20 cm. Donc, il n'y a qu'une seule taille pour tout le monde.
Vous avez testé longtemps quand même, hein, pour voir si ça se renversait, si ça ne se renversait pas, quels étaient les dangers.
Il y a eu énormément de tests et on a même été jusqu'à tester les utilisations les plus folles.
C'est-à-dire ?
Bon, il faut faire une bosse d'un mètre, arriver à 30 km/h et voir ce qui se passe.
Oui, et il se passe quoi ?
Eh ben, on a développé une suspension, donc ça se passe bien maintenant.
Ça se pratique n'importe où. C'est interdit sur les pistes.
Alors
les
aujourd'hui,
luges.
C'est autorisé sur les pistes de ski avec les skieurs, puisque justement, ce que je disais, c'est la partie maîtrise des trajectoires et maîtrise de l'arrêt fait qu'on est autorisé avec les skieurs. On a à peu près les mêmes trajectoires. Il y a aujourd'hui plus de 80 stations en France qui l'autorisent, dont La Plagne, Champs-Rousses, Serre-Chevalier et puis Chamonix. Donc on peut aller dans ces stations-là pour aller pratiquer et même c'est elles aujourd'hui qui poussent l'activité parce qu'elles se rendent bien compte que ça peut amener une nouvelle clientèle à découvrir la glisse et pourquoi pas plus tard faire du ski.
Oui, parce que des gens qui ne font pas de ski peuvent faire du snook.
Alors une personne qui ne fait pas de ski, on va dire qu'elle met à peu près 3 jours à apprendre à faire du ski et là elle met à peu près 10 minutes. Donc forcément l'accès n'a rien à voir.
Catherine, qui a beaucoup pratiqué le ski.
C'est pour moi, parce que je suis très trouillarde en fait, par rapport à mes genoux et mes chevilles, et je pense que je ne suis pas du tout la seule. Où est-ce qu'on va louer ça ? Alors ça, c'est la première question. Et si on a un accident, est-ce qu'un assureur, vous avez déjà géré tout ça ? Parce que c'est accident de ski, on est assuré. Comment ça se passe ?
Exactement pareil. Quand okay. vous achetez votre forfait, on va vous proposer une assurance ou pas, ou avec votre carte bancaire. À partir du moment où vous êtes un utilisateur des pistes de ski, c'est la même chose. Et en fait, on est sur du ski assis. Donc voilà. Après, là où on peut le retrouver, il y a des stations qui vraiment poussent l'activité et qui la proposent directement pour une somme modique et pour une expérience vraiment le test.
C'est-à-dire, somme modique ?
Bah, on est entre 7 et 12 euros.
Oui.
Donc 7
oui,
et 12
donc ça
euros.
Reste très accessible.
C'est ça. On a le matériel, le forfait pour faire une montée et même dans certaines stations, on vous prête les chaussures si vous êtes en chaussures de ski. Donc vraiment, vous pouvez découvrir l'activité très facilement.
Et je fais comment pour prendre le télésiège avec ça ? Parce que j'ai soulevé, c'est pas très lourd, mais quand même. Le tire-fesse, c'est impossible.
Alors le tire-fesse, on a un système pour prendre le tire-fesse.
Où on accroche ?
On a une sorte de boomerang qu'on accroche devant et qui nous permet de monter et qui se libère D'accord. à la fin. Et sur le télésiège, on met le ski sur l'épaule. Le télésiège vient nous récupérer et on monte jusqu'en haut.
Dora, il y a de plus en plus de formes de glisse qui se développent. Hein.
Et oui, comme on vient de parler de snook, mais il y a aussi GoToSki, une trottinette des neiges. Alors, capable de reproduire les 8 mouvements effectués par les pieds quand on skie, c'est une invention qui permet à des personnes en situation de handicap de skier debout et de connaître les mêmes sensations à ski qu'une personne valide. Et ça se pratique à La Plagne. Au Sept-Lots à Belledonne, entre Grenoble et Chambéry, la star, c'est l'airboard. Alors, une luge gonflable, légère, très maniable et utilisable par tous. On dévale les pentes allongées, la tête la première. Donc, autant dire, faut aimer les sensations fortes.
Ouais.
Pour les fans de roller aussi, ça c'est tout droit venu de Norvège. On en parle quand même parce que ça fait rêver, c'est les Sled Dog Snow Skates qui sont des patins en fait, qui sont utilisés sur la neige. Tout simplement, c'est une chaussure légère, très confortable, avec une surface de glisse comme un ski, de la largeur d'un ski, et des quarts comme sur des skis qui permettent toute accroche sur tout type de neige. Donc ça pareil, c'est accessible à tous, du débutant à l'expert. Bon, les cuisses chauffent un peu, j'imagine que là-dessus aussi, d'ailleurs, sur le snow aussi. Non
c'est confort.
On est assis. Avez les cuisses qui chauffent assis... Ça change
les abdos
priori,
un peu quand même, parce qu'il faut retenir quand même dans le mouvement pour tourner,
non, c'est un
pour
truc
tout
pour
ça.
Moi. C'est... On fait zéro effort. Justement, est-ce que c'est fabriqué en France ? Est-ce que vous avez réussi à faire en sorte que tous les éléments qui constituent le snook soient issus de chez nous ?
Alors, tout, malheureusement pas. Tout vient d'Europe.
Oui.
Y a des pièces qu'on n'a pas réussi à trouver en France. Concrètement, les pots, par exemple, parce que ça se transforme aussi en matériel de randonnée pour aller se balader. Et puis, les skis, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de partenaire en France. Donc, on va en Slovénie.
Donc, on cherche un partenaire aussi en France. On va essayer. On ne sait jamais. Sait. Si on nous écoute et qu'on nous entend, un partenaire pour faire le snook avec vous, ce sera encore mieux. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a des champions qui ont essayé et qui se sont régalés.
C'est exact. Donc on a Perrine Lafont l'année dernière qui a testé et qui nous a mis un petit mot sur son Instagram que c'était la meilleure invention du siècle. Donc on est super flattés d'avoir un retour comme celui-là.
Bon, nous on a hâte de tester évidemment, on va devoir attendre un petit peu. On reste ensemble et on continue à parler innovation et montagne aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et si vous n'avez pas la tenue adéquate pour aller au sport d'hiver, ni le budget d'ailleurs pour l'acheter, pourquoi ne pas louer grâce aux petits montagnards ? A tout de suite.
On part à la montagne aujourd'hui dans la France Bouge. Jusqu'à 14h, Raphaël, vous vous intéressez aux nouveautés dans ce domaine avec vos invités du jour. Comment évoluent les services ? Eh bien, cette question, on vous la pose à vous aussi, auditeur, au 39-21, 50 centimes la minute.
Et c'est vrai que quand on va au ski, qu'on en fasse ou pas d'ailleurs, il faut des tenues chaudes et adéquates. Or, c'est un budget, surtout quand il faut équiper les enfants. La facture peut très vite s'avérer salée. Alors, pourquoi ne pas louer aussi les vêtements puisqu'on loue les skis ? Bonjour Pierre-Gilles Massoulier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé avec votre épouse les Petits Montagnards. Vous vous êtes spécialisé dans la location de vêtements de ski. Comment vous est venue l'idée ? Par un besoin personnel, tout simplement ?
Oui, tout à fait. En fait, tout est parti d'un constat. On s'est rendu compte qu'on faisait ça depuis des années. On habite en Haute-Savoie et on a, au moment des vacances d'hiver, la famille, les amis qui s'arrêtent et on doit toujours leur fournir...
Une
tenue, une paire de gants, un bonnet, genre de choses. Et en fait, des circonstances ont fait qu'il y a un an et demi à peu près, ma femme et moi, on s'est retrouvés sans activité, avec un vrai besoin de se réinventer professionnellement. Et c'est à ce moment-là que Nancy m'a soumis l'idée de proposer la location de vêtements de ski au grand public.
Alors, comment vous avez fait pour aller chercher les vêtements ? Où est-ce que vous les avez trouvés ?
Donc, l'idée est arrivée un petit peu tard dans la saison. On n'est pas du tout du domaine. On n'a jamais travaillé ni dans le commerce, ni dans le marketing et tout ça. On ne s'est pas posé de questions. Il était début octobre. On s'est dit, bon, bah, toi, Nancy, tu t'occupes de trouver des tenues adéquates. Moi, je vais essayer de faire un site internet qui marche à peu près. Et puis on se lance. Donc, c'est comme ça qu'en quelques semaines, en fait, lespetitsmontagnards.com sont nés.
Vous avez rentré combien de références et surtout, est-ce que Nancy a trouvé les vêtements elle est allée voir les marques
Alors, pour la première année, en fait, l'idée, c'était vraiment de tester cette idée sans... je veux dire, on s'est lancé bille en tête, on n'a pas fait d'études de marché, on est parti la fleur au fusil, vraiment comme un challenge, je dirais. Donc, on a essayé de trouver des tenues, des jolies tenues, de belle qualité, un peu partout, dans les magasins, sur des sites qui permettent d'acheter des tenues de seconde main. Voilà. Et l'année dernière, en fait, l'idée originelle était d'être sur les tenues enfants. Donc, c'est vraiment ça qui nous a lancé. Étant parent de deux enfants, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était tous les ans, il fallait changer les tenues. Il y avait, ça représentait, pour avoir des tenues de bonne qualité, un budget vraiment certain. On parle de centaines d'euros. Et tous les ans, en gros, il faut changer. Donc, c'est vrai que proposer ce service à des personnes qui viendraient quelques jours par an au ski nous semblait tout à fait judicieux.
Donc le site est créé depuis septembre 2018, c'est ça
Oui, à peu près, pour la saison 2018-2019.
Donc vous avez acheté des fins de série, vous êtes
voilà, on a essayé de faire, en fait, vu qu'on a essayé de faire malin, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire malin sur les achats de tenues, en essayant de trouver justement des fins de série qui étaient toujours dans l'air du temps. On a essayé de trouver c'est notre vitrine finalement, les tenues, donc essayer de trouver le meilleur compromis entre des produits de qualité, et j'insiste parce que c'est vraiment super important, et en même temps qu'ils soient dans l'air du temps au niveau du style et tout ça.
Et alors comment ça marche ? Je vais sur le site, je vous dis je vais partir la semaine prochaine, j'ai besoin que vous m'envoyiez par exemple les tenues pour mon fils ou ma fille, vous allez me l'envoyer à la maison, vous allez me les déposer en station, comment ça se passe ?
Alors en fait, donc l'offre a évolué et maintenant nous couvrons une gamme du nourrisson jusqu'au rugbyman troisième ligne.
Oui.
On a étendu notre
offre. Ça m'intéresse.
Et donc, en fait, c'est super simple. Vous allez sur notre site, vous choisissez la tenue qui vous convient, dans la taille qui vous convient. Vous nous indiquez la date de début, la date de fin. Vous nous indiquez également où et comment vous souhaitez être livré. Donc, est-ce que vous souhaitez être livré avant de partir chez vous, parce qu'il y a une appréhension et s'assurer que...
Être bien sûr que ça nous va.
Voilà, exactement. Ça, c'est une des craintes que nos clients ont et sur lesquelles on les rassure au maximum. Soit, en fait, si la problématique est plus d'éviter de voyager chargé, tout ça, on livre directement en station, soit en point relais, soit aux réceptions des hôtels et des résidences.
Et vous prenez tout en charge, c'est-à-dire que quand on va vous régler, il y a cet envoi qui est pris en compte, et également le nettoyage des vêtements.
Alors, nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était vraiment une offre claire et tout compris. C'est-à-dire qu'en fait, dans les prix qu'on vous annonce, nous avons évidemment la location des tenues, des accessoires si vous souhaitez avoir une paire de gants.
C'est 120 euros pour un adulte en moyenne,
voilà,
et
si vous souhaitez
60
prendre,
euros environ pour un enfant.
Exactement. Si vous souhaitez prendre avec gants, masques et tout ça, pour une semaine, c'est dans cet ordre de prix-là.
Catherine.
Alors j'adore ce genre d'histoire, tant ça me paraît évident. J'aurais cru que ça existait depuis longtemps, en l'occurrence, parce que quand on vit en ville, par exemple, ça prend une place dingue, tous les équipements de ski. Et vous allez même plus loin, parce que j'ai vu sur votre site que vous pratiquez l'arrondi, par exemple, que vous utilisez des emballages réutilisables, de
Exactement.
Mémoire. Du coup, vous êtes engagé en matière de développement durable globalement maintenant.
Tout à fait. En fait, on est des vieux jeunes start-upers et on a envie de faire les choses, je dirais que professionnellement, on n'a rien à prouver, donc on a envie de faire les choses à notre manière et avec les valeurs qui sont les nôtres. Et il était important, en fait, aujourd'hui, en étant en plus parents, d'essayer d'être le plus respectueux de l'environnement possible. Donc c'est vrai qu'on a mis un certain nombre d'actions, même si notre activité est modeste, on essaie d'intégrer ce genre d'action dès le début dans notre fonctionnement. Donc c'est vrai que on est consommateur de plastique parce qu'il faut expédier, récupérer. On s'est dit il faut trouver une solution. On a trouvé une solution qui nous permet d'avoir des sacs qui sont réutilisables. Donc on a éliminé complètement le plastique à usage unique. Et pareil pour le support. Il nous semblait logique en fait d'essayer de supporter même modestement en fait des associations qui œuvrent pour l'environnement, pour
autres,
notre terrain de jeu, finalement.
Dora, on est en train de finalement regarder une solution qui fait fondre notre budget. Je crois que vous en avez trouvé d'autres.
Oui, déjà, on peut faire fondre le budget par le logement. Alors, il y a Sporty Home, qui est un Airbnb des voyageurs sportifs. C'est une application qui offre la possibilité de loger chez des sportifs skieurs, comme nous, aussi passionnés. Et il y a 45 disciplines sportives. Donc, il n'y a pas que le ski. 6700 locations et ils revendiquent plus de 30 000 utilisateurs. Il y a aussi le bouche-à-oreille Bon Plan via l'application Ski 360 et ses 200 000 utilisateurs. Alors là, en échangeant direct les bons tuyaux pour, vous savez, justement les locations de ski, les forfaits sur place, voilà comment trouver des bons prix. Il y a plus de 100 stations de ski référencées et on télécharge ça gratuitement sur iOS et Android.
On reste ensemble et on continue à se balader à la montagne aujourd'hui.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et pourquoi ne pas vous inscrire pour prendre des cours de ski, puisqu'on y est. Mais dans une école nouvelle génération, c'est possible avec les bâtons. A tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous êtes avec Raphaël Duchemin pour La France Bouge et direction la montagne ce jeudi pour voir comment évoluent les services. Alors si vous avez des questions ou d'autres informations, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton.
Oui, un petit cours. Évidemment, ceux qui sont déjà allés au sport d'hiver savent que le ski, ça s'apprend. Mais les cours n'ont pas forcément beaucoup évolué. Alors, plusieurs amis ont eu l'idée de dépoussiérer l'image des écoles. Bonjour Florent Palache.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs avec Benoît et Marco, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Des bâtons. Alors les bâtons, vous le pratiquez depuis toujours, je crois, le ski. 4-5
ans. Depuis longtemps,
oui. Mais il y a 2 ans, il s'est passé quelque chose. Vous avez eu envie de faire évoluer les cours parce que vous avez un ami du Nicaragua qui est venu skier avec vous et là vous vous êtes aperçu que finalement c'était compliqué d'apprendre à skier.
Bah c'est ça, nous on n'avait pas pris de cours depuis une vingtaine d'années, on n'était pas trop, n'ayant pas d'enfants, on n'était pas du tout confrontés de nouveau à ce secteur-là et on s'est rendu compte quand il a pris des cours que déjà la réservation n'était pas forcément simple, que sur place on ne savait pas forcément qui allait être le moniteur à l'avance, on ne connaissait pas forcément les exercices qui étaient faits. Donc quand on voulait prendre le relais de ce qui était fait l'après-midi, c'était pas simple, qu'il y avait pas de photos qui étaient prises, alors que voilà, il y a plein de souvenirs. Et lui, pour le coup, c'était un moment qui était assez unique dans sa vie, parce qu'il ne refera pas, je pense, de ce qu'il y a avant.
Donc il n'y avait pas de retour pédagogique,
voilà,
finalement.
Il n'y avait pas de retour pédagogique, on ne savait pas trop. C'est un peu la boîte noire, quoi. Aujourd'hui, l'école de ski, on met son enfant ou son conjoint ou son ami dans l'école. Il part, on ne sait pas trop ce qui est fait. Donc prendre le relais et savoir ce qui... Et puis avoir même des souvenirs du cours, c'est quelque chose qui n'est pas du tout systématique. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et en rentrant un petit peu plus dans le secteur, on s'est rendu compte qu'il y avait... De manière générale, un peu un essoufflement en termes d'image auprès des jeunes des écoles de ski, mais plus généralement de la station de ski. Quand on regarde les chiffres, il y a de 20 à 14% de jeunes au ski en 20 ans. Donc ça a vraiment fondu. C'est vraiment une population qui va moins au ski parce qu'elle rêve moins de ski. Et quand on regarde un petit peu, on s'est penché un petit peu sur les propositions actuelles en termes d'école et même au-delà. Soit on a une proposition très académique. Où voilà, il faut passer les échelons et les niveaux et passer par une sorte de phase obligatoire, pas forcément agréable, en tout cas qui est plus obligatoire qu'autre chose.
C'est pas assez ludique.
Voilà, c'est pas forcément assez ludique. Et on a à côté de ça le freestyle dont on voit plein de d'images très impressionnantes, mais qui sont pas forcément inspirantes quand on veut faire du ski et apprendre le ski, parce que c'est un sport extrême. Donc,
qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes allé démarcher les écoles de ski, des moniteurs
Alors, nous, on est allé voir des moniteurs, on est allé voir beaucoup de moniteurs, beaucoup de clients. On essaie de comprendre ce qui bloquait et ce qui amenait plein de gens à plus aller au ski, à choisir d'autres activités. Et ce qu'on veut proposer, c'est une école de ski qui déjà facilite toute la partie prise de renseignements et organisation au départ. Donc on veut être aussi beaucoup plus disponible pour parler d'organisation, comment, quel matériel, où on se retrouve, comment, etc. Parce que le ski, c'est compliqué à organiser. Et c'est pendant le cours,
oui,
de proposer quelque chose d'autre avec un suivi pédagogique différent. Donc bien sûr, il y a le niveau de fin, parce que c'est important pour les enfants qui se repèrent dans leur niveau, pour qu'ils sachent où revenir l'an prochain, l'année d'après. Mais c'est aussi donner des retours et des récompenses via une petite application. Donc dire bravo, t'as réussi tel exercice, t'as visité tel sommet, t'as découvert tel nouveau lieu, telle nouvelle vallée, parce que c'est aussi de la découverte, le ski. Et c'est demander aux moniteurs systématiquement de prendre des photos qui sont automatiquement envoyées dans l'application aux parents aussi, pour avoir des souvenirs. Alors là, ce n'est pas de la pédagogie, c'est plus du fun et du souvenir. Et à travers notre application aussi, c'est de donner des informations de découverte sur la montagne, expliquer comment se forme la neige, les différents types de neige, etc. Parce que le ski, ce n'est pas que apprendre à faire des virages. Bien sûr, c'est un passage obligatoire, mais c'est aussi...
C'est comprendre l'environnement dans lequel on évolue.
Exactement, comprendre les différents types de neige, la pente, maîtriser les risques, etc. Et c'est un peu plus que juste de la technique.
On va vous inscrire, Catherine.
Exactement. Alors, c'est intéressant parce que le digital est vraiment en train de révolutionner tous les secteurs, in fine. Souvent, quand on s'inscrit à un groupe de ski pour apprendre à skier, derrière, on a un groupe WhatsApp qui se crée pour partager les photos. Est-ce que vous avez créé une sorte de communauté en interne aussi pour stimuler les échanges? Parce que ça fait aussi moins peur de savoir avec qui on va aller skier après.
Ouais, exactement. Par exemple, nous, ce qu'on fait avant le cours, c'est qu'on donne accès à l'application, et dans l'application, les parents et les enfants ont accès à la fiche du moniteur qui se présente. Donc, on sait à peu près à qui on a affaire, etc. Et justement, c'est intéressant que vous donniez cet exemple, parce que ça se fait comme ça aujourd'hui. Le moniteur doit créer un groupe WhatsApp. Alors, s'il a la possibilité de le faire, parce que si c'est des enfants, il doit aller un peu voir les parents les uns après les autres, donc c'est pas forcément facile. Nous, on veut systématiser ça et faire en sorte que d'emblée, le moniteur, il puisse, quand il prend une photo du groupe, que ça soit envoyé directement à tout le monde sur le groupe, sans qu'il y ait cette étape logistique pas forcément simple, quoi.
Dora, je crois que vous avez trouvé une autre innovation qui nous facilite les vacances au ski.
Oui, parce que qui dit ski, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi la raclette. Hein. Là, je vous propose de vous faire livrer au pied des pistes, en fait, dans plus de 200 stations, des repas, bon, pas que de la raclette, hein, mais préparés par des restaurateurs et surtout des producteurs locaux.
Ils ne livrent pas la raclette jusqu'ici,
Non, parce que là, on n'est pas sur une station de ski, malheureusement, pour nous, Raphaël. Plus de 70 menus, donc c'est YouSki, USKI, première plateforme de livraison dans les Alpes.
Vous êtes lancé depuis 2019, donc c'est assez récent.
Ouais, c'est notre première saison.
Quels sont les premiers retours, là?
Là, on a fait à peu près 500 cours. On a la partie surtout photo, qui est beaucoup plus systématique, qui est très appréciée. Et nos difficulté principale aujourd'hui, c'est d'amener les moniteurs, d'inciter les moniteurs à systématiquement leur faire comprendre que c'est un vrai intérêt pour les gens et de le faire vraiment systématiquement pour que tous les jours, il y ait des retours photos, que tous les jours, il y ait des petits retours de badges.
Vous êtes partout dans toutes les stations ou non, uniquement sur certaines?
Voilà. Pour l'instant, on est à Val Thorens avec nos propres moniteurs et en plus, on teste le concept avec trois autres stations.
Donc en partenariat avec des écoles de ski.
Voilà, avec des écoles qui existent déjà depuis un moment.
À quel endroit?
Aux Deux Alpes, à Avoria et à Val d'Isère.
Oui, c'est un bon concept, hein, Catherine.
Et ça donne un peu de transparence aussi. Alors j'imagine Exactement. Qu'ils ne doivent pas être très friands d'aller se donner un peu plus de boulot, in fine.
En réalité, si, parce que... Alors il faut quand même leur expliquer l'intérêt, parce qu'ils ne vont pas le faire, ils vont pas le faire forcément comme ça d'eux-mêmes. Mais en réalité, eux, ils ont un vrai enjeu à ce que ça se passe bien et à faire en sorte de bien faire leur travail, quoi. Ils font du ski parce qu'aussi, ils aiment la montagne. Donc s'ils peuvent apprendre davantage... motiver davantage aussi, parce que c'est le but des badges et des récompenses régulières, oui. C'est de motiver davantage et de ne pas avoir le phénomène de l'enfant qui est un peu découragé, qui ne voit pas trop le but et qui se dit « bon, ma médaille en fin de semaine, je ne l'aurai pas parce que je suis nul ». C'est aussi le but de donner un peu de retour et de donner un peu de quoi partager en famille, quoi.
On reste ensemble ? On garde quelques questions pour dans quelques minutes. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1.
Et on attend les vôtres aussi, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. Vous êtes les bienvenus si vous avez des questions à poser à nos invités ou si vous avez tout simplement envie de partager avec nous vos vacances au ski. À tout de suite. Europe 1.
Les vacances d'hiver ont commencé ou vont commencer pour certains d'entre vous et vous avez peut-être décidé de partir à la montagne. Eh bien, les services évoluent dans le domaine et vos invités Raphaël nous le prouvent aujourd'hui. Mais vous aussi, un auditeur, vous pouvez nous le prouver également.
Évidemment.
Si ce sujet vous parle, on vous attend en direct au 39 21 50 centimes la minute.
Ah ben oui, on s'amuse, c'est les vacances. Je peux vous dire qu'on danse en studio. Cyril Colmédage est avec nous, créateur fondateur du Snook, luge monoski qui permet de découvrir la sensation des sports de glisse tout en étant assis, c'est quand même formidable. Pierre-Gilles Massoulier, cofondateur de l'entreprise Les Petits Montagnards, spécialisé dans la location de vêtements de ski. Et Florent Palage, cofondateur de la start-up Les Bâtons, école de ski nouvelle génération. Notre coach aujourd'hui, c'est Catherine Testa, fondatrice de l'optimisme.com et du club des Chief Happiness Officers. Et à mes côtés, c'est Dora Nana qui est là. Dora, justement, les innovations pour un séjour à la montagne en toute sécurité, est-ce que vous en avez trouvé?
Ah oui, il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus d'ailleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents aussi, hein, malheureusement. Alors, il y a des petites choses comme Rezero, c'est un petit boîtier qu'on fixe sur la bretelle de son sac à dos de ski. On l'active par simple pression en cas d'accident et il permet d'être géolocalisé par les secours les plus proches. Grâce à vos données de géolocalisation, ça sert, hein, vous voyez, dans ces cas-là.
Oui.
Autre innovation française, In-On-Motion, c'est l'airbag pour les skieurs. Pas que, hein, ils font aussi motards et cavaliers, mais pour le ski, ce système s'intègre directement dans les équipements et se déclenche en cas de chute, intelligent aussi, parce qu'il anticipe les déséquilibres et les impacts éventuels. Et à Val Thorens, les stations s'y mettent aussi, par exemple, ils sont équipés de drones avec caméras embarquées qui permettent d'identifier rapidement les avalanches grâce à leurs caméras et grâce à un haut-parleur de diffuser l'information et de donner des consignes précises avant l'arrivée des pisteurs. Et les caméras thermiques aident aussi les secours à retrouver rapidement les victimes d'avalanches.
Beaucoup d'innovations, on le voit, et on le voit aussi avec vous, tous les trois d'ailleurs. Vous êtes de jeunes entreprises. Quelles sont les ambitions aujourd'hui, Cyril, de développement? Est-ce que vous allez chercher à lever des fonds, par exemple?
Alors nous, clairement, on est sur un business model maintenant qui est prouvé, qui fonctionne. Les stations nous suivent, donc on doit accélérer. L'objectif, il est mondial. On est déjà en Chine, on est à Wanlong, Bai, on est également en Suisse, où il y a une culture de la luge qui est très importante et on est très bien accueillis. On a d'autres pays en cible, en particulier les pays où le ski émerge. Donc il y a un marché en fait qui est juste énorme, qui est devant nous. Et effectivement, on cherche des investisseurs pour pouvoir continuer cette aventure.
Oui, pour qu'on puisse vous recevoir aussi dans l'entreprise qui va bien d'ici quelques années.
Le plus court possible.
Le plus court possible, évidemment. Même question pour vous, Pierre-Gilles. Il y a des ambitions, il y a des levées de fonds prévues, il y a des envies de développement.
Oui, tout à fait.
Rapprochez-vous un tout petit peu
voilà.
du micro.
Donc, cette année, c'était une année de test, je dirais une grandeur nature. Le retour client est juste super, ça nous motive pour pousser encore davantage.
Combien de clients d'ailleurs ?
Aujourd'hui, en termes de clients, je ne saurais pas vous dire, mais on est à fin janvier à 300 locations à peu près. Donc voilà, on a plein d'idées qu'on souhaite développer avec des partenaires. Donc en termes de développement, en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect financement, parce qu'en fait, le métier de la location est un métier gourmand en trésorerie. Donc, il va nous falloir des fonds pour accélérer le développement. Et également, en fait, on travaille pour avoir des partenaires qui souhaitent nous accompagner sur du long terme, des partenaires qui auraient une offre qui serait proche de la nôtre et complémentaire à la nôtre. Et on travaille activement là-dessus. Et on espère avoir plein de bonnes surprises pour la saison prochaine.
Florent, même question, vous aussi, levée de fonds en vue, hein, je crois.
Oui, une petite levée de fonds en vue, effectivement. Parce que là, parce que c'est un tour d'amorçage. Donc là, le but, c'est vraiment de se professionnaliser. On a fait beaucoup de choses à la main. Ça nous a permis de tester pas mal de choses, de les faire évoluer rapidement. Maintenant, là, le but, c'est de passer du temps à mettre une solution technique vraiment performante qui peut nous permettre de grossir assez rapidement.
Catherine.
Alors, je vous souhaite plein de succès parce que pour tous les trois, en fait, vous avez testé votre produit avant de spéculer sur le fait que ça intéresse les gens. Et j'espère que tout le monde utilisera vos trois solutions parce qu'elles font... C'est du bon sens, en fait, que d'y aller pour trouver des investisseurs derrière.
Et voilà. Vous avez le sentiment, tous les trois, que les choses sont en train de bouger à la montagne ?
Ouais, clairement. Enfin, c'est vrai que, comme je vous disais, on a pas mal regardé ce qui se disait côté experts, etc. On a l'impression qu'il y a une prise de conscience aussi un peu globale que depuis 10 ans, si ce n'est plus, les gens y vont un peu moins. Aujourd'hui, ça se... ressent pas forcément énormément dans les chiffres parce qu'il y a plus de gens qui sont plus vieux qu'avant qui y vont, mais encore une fois, les jeunes y vont vraiment massivement moins, donc on s'en rend compte.
Il y a un développement aussi peut-être en hors saison hivernale.
Exactement,
pour la montagne.
pour faire vivre tout cet écosystème là sur toute la saison et rentabiliser les équipements, c'est important aussi de se développer en été.
Équipement d'été, vous y songez pour le snook ?
Alors, on a déjà un snook d'été qui est en route. Donc, on teste déjà depuis 2 ans en Autriche. Et effectivement, pour nous, par rapport au réchauffement climatique et par rapport à tout ce qui est en train de se passer, déjà, les stations aujourd'hui, clairement, elles n'ont pas le choix. Il faut qu'elles se posent des questions et elles se les posent d'ailleurs. Et effectivement, pour nous, il faut que ce soit complémentaire été-hiver.
Et pareil, même question, oui, comment est-ce que vous faites quand on n'est plus dans les doudounes, dans les bonnets et dans les après-ski ?
Effectivement, l'idée originelle était vraiment ultra saisonnière. Pour que l'entreprise soit viable, il faut penser 4 saisons. La montagne, c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire, qui est vraiment... il n'y a vraiment que quelques semaines dans l'année où c'est difficile de faire quelque chose. Nous, dès l'année dernière, en fait, on s'est posé la question, qu'est-ce qui est dans cet environnement ? Qu'est-ce qui est finalement un investissement lourd pour une utilisation ultra courte ? Et on a lancé la location également de porte-bébé de randonnée qui a marché. Pareil, c'est un test, mais qui a été au-delà de nos espérances. Donc, on réfléchit vraiment à tout ce qui pourrait rentrer dans ce schéma-là. En fait, des investissements conséquents pour les utilisateurs, pour les clients, pour une utilisation ultra ponctuelle. Et on espère leur fournir ce service très prochainement.
C'est ce qu'on vous souhaite également. Merci à tous les trois d'être venus nous faire découvrir vos innovations pour la montagne.
Merci
d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1.
100 ans qu'il noue des cravates, l'atelier Boivin. Et d'ici quelques minutes, l'entreprise qui va bien. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et il est temps, Raphaël, d'en savoir plus sur l'entreprise qui va bien.
Oui, et cette entreprise, c'est l'Atelier Boivin. Bonjour Philippe Lalanne.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez cette maison qui fête ses 100 ans cette année.
Absolument.
L'Atelier Boivin, créé par Jacques Boivin. À l'époque, ce métier s'appelait cravatier.
Il était cravatier, effectivement. Il travaillait pour de grands magasins, de grandes chaînes de distribution à l'époque. Il faisait des nœuds papillons, des pochettes, des cravates, et tout ça pour les autres. tout simplement marque blanche.
Oui, parce qu'à l'époque, on portait énormément de cravates, on portait énormément de nœuds papillons.
On portait beaucoup de nœuds papillons, on continue à porter des cravates et des nœuds papillons. Quoi qu'on en dise, surtout notamment par exemple au Japon, un petit peu moins en France, mais ça va revenir, tous les podiums le montrent, c'est surtout une notion de savoir-faire.
Alors, à l'époque, la forme n'était pas tout à fait celle qu'on connaît aujourd'hui. Les formes ont beaucoup évolué.
Alors, les formes ont beaucoup évolué et surtout, il y a eu une mise en place d'une technique qui fait que la cravate se tient bien aujourd'hui, c'est qu'on la coupe dans le biais, c'est-à-dire dans le travers d'un rouleau de soie. Sinon, avant, elle tire-bouchonnait, tout
simplement.
Elles
étaient beaucoup plus larges aussi.
Elles étaient plus larges, elles pouvaient avoir des étoffes. On avait ce qu'on appelait les ascottes, on avait ce qu'on appelait les lavalières. Il y avait beaucoup de formes issues surtout de la période de Louis XIV, puisque c'est Louis XIV qui en a fait, qui l'a élevé au rang d'art, en tout cas à sa cour, et qui en a fait un accessoire de mode, puisqu'il a aussi à l'époque créé la charge de maître cravatier, qui était la personne qui devait tous les matins choisir une cravate, des bijoux pour le roi.
Dans les années 70, l'entreprise a changé de main, changé Absolument. De famille. Hein, c'est la famille Grandjean qui va développer, pour le coup, la montée des accessoires et la montée en gamme. On va davantage vers le luxe.
Alors, toujours dans l'esprit et dans ce qui est la colonne vertébrale de l'atelier, qui est de travailler pour les autres, on est façonnier. Donc, en marque blanche, la famille Grandjean, sur plusieurs générations, a travaillé pour de grandes maisons de luxe. De manière à développer un savoir-faire encore plus précis.
Alors, elle rechange de main en 2014.
Absolument.
Et puis vous arrivez récemment, 2018.
Ouais.
Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous lancer dans cette aventure?
Alors,
parce que vous n'avez pas de cravate.
Alors oui, parce que moi, je passe beaucoup de temps dans les mains dans les machines, en fait. Donc, c'est pour éviter de l'attacher. Si vous voulez, en parallèle, moi, je travaille avec des street artistes et je les fais collaborer avec des artisans français. Et j'ai toujours eu la passion du geste. Et le geste, c'est quelque chose qui se perd, c'est quelque chose qui est difficile à transmettre. Il y a très peu d'écrits, la culture orale est compliquée. Le geste, c'est le geste. Et assez logiquement, de ce métier d'éditeur, entre guillemets, parce que c'est un métier un peu nomade, j'ai repris l'atelier avec un associé qui est François-Régis Laporte, qui est le fondateur de Maison F. Maison F faisant fabriquer ses accessoires depuis sa fondation en 2011, à l'atelier. C'est une suite logique.
Ouais, vous dites on est l'un des secrets les mieux gardés de Paris.
Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste un jour qui a dit vous êtes un des secrets les mieux gardés de Paris.
Alors, pourquoi? Parce qu'on vous connaît sans vous connaître.
Parce qu'on est dans l'ombre, parce qu'on est peut-être au cinquième étage d'un immeuble parisien sans vraiment avoir de nom sur la porte, et parce que effectivement c'est un atelier qui travaille pour les autres, que ce soit des grandes maisons, que ce soit des grands magasins, des grands hôtels. De grandes entreprises en France et à l'international.
Vous parliez du geste, c'est important, tout est fait à la main. On trace, on coupe.
Absolument, comme chez un tailleur. Tout est tracé, coupé, monté main. On prend le temps de faire les choses.
On prend le temps et ça c'est quelque chose d'important. Ce qui est important aussi c'est transmettre ce savoir-faire.
Absolument.
Essayer de faire en sorte que les personnes qui travaillent, qui ont ces métiers formidables entre les mains puissent continuer à les transmettre.
Il faut le transmettre. Avant de le transmettre, il faut le nourrir. Donc comme on est dans l'ombre, mais ça c'est quelque chose qui nous va très bien, on a l'habitude de travailler en marque blanche, on a décidé de mettre la lumière sur le savoir-faire de nos artisans. Donc on a fait renaître la griffe de l'atelier. Elle existait, elle était parcellaire, elle n'était peut-être pas très organisée. On en a fait quelque chose de très précis, de très précieux, de par le savoir-faire qu'on y met et de par les étoffes qu'on utilise.
Oui, parce que vous êtes allé chercher des étoffes que vous aviez depuis longtemps.
Alors, on a, nous, historiquement, plus de 6000 rouleaux de soie en archives. Donc c'est une bibliothèque exceptionnelle.
Soit française, soit italienne.
Soit française, italienne, parce qu'on ne travaille qu'avec des tisserands français et italiens. Et plus particulièrement pour la griffe de l'atelier, on est allé chercher un tisserand qui est pour nous un tisserand exceptionnel et qui a le même degré d'exigence en termes de savoir-faire dans ce qu'on appelle les armures. Les armures, c'est la façon dont vous tissez la soie. C'est la façon dont vous créez des motifs et du relief.
Vous avez aussi, et ça c'est important de le signaler parce que c'est aussi dans l'air du temps, travailler l'upcycling.
Alors,
vous recyclez les...
Absolument, on n'aime pas jeter. On est un petit atelier, on a des chutes. Et je
Qu'est-ce
vous ai apporté un exemple. C'est aussi la façon de nourrir le savoir-faire. On se pose des questions tout le temps. C'est aussi comme ça que vous faites vivre le savoir-faire. Il faut trouver de nouvelles idées. Et je vous apportais un petit coussin qui ne paye pas de mine, que vous avez là, qui est issu des chutes de l'atelier et qui, en fait, peut servir aussi bien pour une montre, pour venir accrocher la montre avec son bracelet, ou plus, de manière plus prosaïque, piquer des aiguilles. Allez, nos artisans s'en servent aussi pour mettre leurs aiguilles au bord des machines.
Catherine, notre coach.
Alors, quand vous racontez l'histoire, le temps semble suspendu. Moi, je ne connaissais même pas ce métier de cravatier. Effectivement, vous êtes un secret bien gardé parce que quand on cherche sur Internet, on ne voit pas l'intérieur des...
Vous voyez juste les rouleaux.
De l'atelier. Et oui, c'est justement. Ça. Est-ce que vous allez un jour le montrer un peu comment ça se travaille pour donner le goût aussi du travail manuel, en fait,
la meilleure façon de le montrer, c'est que je vous expliquais, donc de le pérenniser, parce qu'on a repris l'atelier surtout pour pérenniser ce savoir-faire, c'est la marque. La marque, la meilleure façon de l'exprimer, c'est que les gens la découvrent et l'achètent. On n'a pas vocation à ouvrir l'atelier parce que c'est un tout petit atelier. Et surtout, une des façons aussi de l'exprimer, c'est aussi de rentrer dans le nouveau territoire, puisqu'on va développer des accessoires pour les cheveux, on va développer des accessoires pour la chapellerie, pour les baskets, pour les montres, pour les lunettes. On ne fait pas uniquement que des cravates ou des carrés avec de la soie, on fait des tas de petites choses très très sympas.
Que vous pouvez découvrir d'ailleurs sur
europe1.fr. Absolument découvrir.
L'atelier Boivin, cravatier depuis 1920, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Philippe Lalanne d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup.
Merci à Catherine Testa qui était notre coach. Dora, Justine, on se dit à demain, midi, même heure, même endroit.